Bonjour à toutes et tous, je suis donc Nicolas Vinet, praticien hospitalier médecin urgentiste avec une micro-CMU à l'hôpital de Troyes, donc dans l'Aube, en Champagne-Ardenne. J'exerce donc la profession depuis 5 ans et donc je suis responsable du centre d'enseignement. Alors c'est au sein de cette structure, le centre d'enseignement des soins d'urgence, qu'une équipe pédagogique a été mise en place et qui a mis en place un programme de formation pour les internes. Donc, qui viennent se former dans nos services des urgences et du SAMU. Je vous propose de vous exposer l'apport de l'e-learning dans cette démarche. Alors, l'hôpital de Troyes est un hôpital non universitaire. Les internes de médecine viennent pour un stage de 6 mois. Ils ont tous fait un minimum de 6 ans d'études à la faculté de médecine. Chaque promotion comprend des internes de médecine générale et des internes de médecine d'urgence. Alors, le métier de médecin urgentiste est un métier récent, il y a moins de 30 ans, et le référentiel des compétences a été édité en 2004 par la Société française de médecine d'urgence. Et afin de permettre à l'interne de développer ses compétences à l'hôpital de Troyes, nous avons créé un laboratoire d'enseignement. L'objectif principal de ce laboratoire d'enseignement est le développement d'une compétence clinique par l'interne. Ce laboratoire est articulé autour des différents savoirs. Le savoir, la connaissance théorique, le savoir-faire, la connaissance d'un geste, et le savoir-être, savoir prendre en charge un patient, bien se comporter avec son équipe, savoir manager son équipe. Alors, les différents outils qui composent ce laboratoire sont une plateforme d'e-learning, que je vais développer aujourd'hui, un atelier de gestes techniques, donc on a acheté des mannequins, des bras, des têtes à intuber, tout ça. Et enfin, un atelier de simulation patient, où là on a un mannequin beaucoup plus complexe, c'est le Simon Kelly de chez Laerdal, où le patient respire, parle, tousse, tout ce qu'on veut. Et donc ça fait, tout ça, ça fait le laboratoire d'enseignement. Bien sûr, c'est associé aux outils plus classiques, plus conventionnels, à savoir les lectures critiques d'articles. On prend un article scientifique et on le commente et on expose ses limites et ce qu'il apporte. Puis les internes font également des présentations orales. Cette formation, bien sûr, ce n'est pas l'essentiel. Avant tout, les internes ils sont là pour 6 mois dans le service au contact du patient. C'est en fait quelque chose en plus qui vient faire le lien entre tout ce que rencontre l'interne au cours de son stage. Alors aujourd'hui, c'est l'e-learning. Donc c'est une brique dans tout cet édifice de la formation. Hein. C'est vraiment pour cibler des objectifs bien précis. Alors, de manière pratique, on utilise la plateforme ClaroLine, qui est sous licence libre. Il s'agit d'une application web hébergée par un serveur Linux virtuel au niveau de l'hôpital. Cette plateforme, comme elle est disponible en intranet, elle est sur tous les PC, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça, c'est par exemple, quand on est en temps de garde, on a un trou pour attendre un résultat d'examen entre 2 et 3 heures du matin. Bon allez, je vais revenir un petit peu au document. Donc des parcours pédagogiques ont été créés par les médecins de l'équipe pédagogique. Il y a un médecin référent par parcours. Chaque parcours est composé de la même manière, c'est-à-dire on a d'abord les textes de référence, qu'on va reprendre sur les sites officiels des sociétés savantes. Ensuite, il y a un QCM qui porte exclusivement sur le texte. Puis derrière, un ou deux cas cliniques QCM pour mettre ses connaissances dans un contexte. Alors, avant de parler des ressources, j'ajoute que chaque parcours doit être bien sûr réalisé à l'avance pour que le formateur ait accès aux résultats des étudiants. Et le tout va servir de base à une discussion lors d'un débriefing programmé. Ce débriefing est systématique, c'est-à-dire que dès que des étudiants sont inscrits à un parcours pédagogique, il y aura forcément un débriefing derrière. L'e-learning seul, c'est un morceau inachevé. Il faut toujours un débriefing derrière. Donc ce débriefing est en groupe avec le médecin référent, et à cette occasion, les internes posent des questions sur les points qu'ils n'ont pas bien intégrés dans ce parcours pédagogique. Ou alors le formateur a repéré que dans l'évaluation des connaissances, il y avait des lacunes sur un certain point, et donc il va pouvoir insister sur ce point. Donc au niveau des ressources, donc pour réaliser cette formation qui est hebdomadaire, Donc derrière, il faut vraiment des ressources. Hein. Alors, il faut bien sûr une équipe de qu'on appelle des tuteurs disponibles. Donc on n'a pas de modèle économique, c'est du temps bénévole. Hein. Il faut bien sûr des référents, un encadrement pédagogique strict. Tout le monde n'est pas, pédagogue, ça s'apprend. Et il ne faut pas confondre, par exemple, le jugement, évaluation. Et donc, il faut vraiment un encadrement très strict sur la forme. Mais ça se fait sans problème. Hein. Il faut bien sûr un support technique. Sans les informaticiens, l'hôpital, ce n'aura pas pu se faire. D'ailleurs, à Troyes, on a une équipe avec un DSI très dynamique, très motivé. Le jour où je leur en ai parlé, trois jours plus tard, le site intranet était créé, alors que bon, ils ne nous attendent pas pour avoir du travail à faire. Quoi. C'est vraiment quelque chose de... Enfin, on a vraiment une grande chance de travailler avec cette équipe. Bien sûr, il faut la plateforme d'e-learning. Les contenus, j'en ai parlé au niveau des sources. Il faut bien sûr un parc informatique, hein, faut le PC. Une salle de réunion pour le débriefing. Et il faut alimenter ce parcours. Alors, ça c'est une première capture d'écran qui est en fait la page d'accueil de ce laboratoire d'enseignement. Aujourd'hui, on a une vingtaine de, cours, de parcours. Donc le style est sobre. Hein. En fait, l'étudiant, lui, ne va ne voir apparaître les parcours uniquement ceux auxquels il est inscrit. C'est-à-dire qu'il n'a pas les 20 en arrivant. C'est chaque semaine, on inscrit un parcours, donc apparaît le nouveau parcours. Lorsqu'il clique sur le cours qui l'intéresse, enfin pour lequel il doit réaliser le parcours, hein, au début c'est un peu obligé, hein, on leur dit qu'il faut y aller. Donc il y a un petit mot d'accueil, bienvenue, bonjour. Voilà comment ça se passe. Sur le côté gauche, alors j'ai pas le pointeur, il y a la, vous voyez le mot parcours pédagogique. Et donc, il clique sur le parcours et il tombe en fait sur cette partie. Donc, vous voyez en format PDF le document de référence. Puis ensuite, le QCM avec la courbe de progression. Et là, c'est pour le chapitre donné sur les états de mal épileptiques. C'est le cas clinique. Et il voit sa progression, c'est-à-dire il peut en faire 40%, s'arrêter et puis revenir plus tard. Alors les QCM peuvent avoir des formes variées, hein, vrai, faux, réponse unique, réponse multiple, je ne vais pas détailler tout ici. L'avantage du parcours pédagogique, c'est qu'on peut obliger à aller toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'il doit d'abord lire le document ou l'imprimer pour pouvoir faire le QCM, et c'est uniquement quand il a validé un chiffre défini à l'avance, on va dire 70%, qu'il a le droit de passer au cas clinique. Donc il va répondre... aux questions qui sont posées sous cette forme. Là, c'était juste pour illustrer. Et avant de passer à la conclusion, le formateur qui, lui, a accès en fait à toutes les corrections, va avoir une partie avec les réponses données et à côté les réponses attendues pour ensuite lui préparer sa séance de débriefing. Mais l'étudiant, on peut choisir également qu'à la fin de son QCM, il a accès aux réponses. Parce qu'en fait, c'est lui qui s'évalue lui-même. Et à côté des réponses, on peut mettre des commentaires. Par exemple, quand la question n'était pas évidente, et qu'on attendait trois bonnes réponses et qu'il n'en donne que deux, et qu'il oublie la troisième, on va marquer bah, il fallait également cette réponse, parce que dans ce cas particulier, par exemple, la fréquence cardiaque est un élément important. Et on va pouvoir commenter les réponses données. Donc j'étais assez rapide, hein, mais on ne peut pas tout faire en 10 minutes. Pour conclure, bien sûr, il faut des ressources humaines et matérielles, mais cela dit, on se rend compte qu'avec un investissement minime en matériel, puisqu'on a déjà tout sur place, hein, on a tous des PC dans les hôpitaux maintenant, c'est possible. Les ressources humaines, c'est le gros point faible. Cela dit, quand on explique aux médecins référents, ben voilà, vous êtes, j'ai un collègue, vous allez faire, il va choisir de faire un module sur l'infarctus du myocarde. Certes, au début, il faut qu'il construise son parcours, ça demande un gros investissement. Mais quand tous les 6 mois, avec les nouvelles promotions, il a simplement à animer sa séance de débriefing sans refaire son PowerPoint, sans à chaque fois refaire sa séance de questions, finalement, c'est très rentable à long terme. L'e-learning, c'est bien sûr un élément adapté au savoir, mais ce n'est pas tout. C'est un point dans l'ensemble de la formation. Aujourd'hui, je vous présente l'e-learning pour la formation des internes dans le cadre de leur cursus initial, mais on se rend compte du potentiel de l'e-learning. C'est à la fois utile pour la formation initiale, il y a eu des orateurs avant moi pour le dire, mais également dans la formation continue. Puisque, en fait, l'avantage de l'e-learning, à partir du moment où on a accès à Internet, ou à l'intranet de son entreprise, on peut s'y mettre quand on a un créneau. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir un formateur de disponible. Enfin, je ne vais pas vous refaire les avantages de l'e-learning de manière générale. Aujourd'hui, je vous parle de l'exemple de la médecine d'urgence. Mais bien sûr, ça s'applique à toute la médecine, à tout type de formation. C'est bien plus vaste qu'à la médecine d'urgence. Et bien voilà,